Bien le bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, l'émission du vendredi 28 février 2020. Je suis Marc-Antoine Godin, en compagnie, comme toujours, de Arpin Basu. Arpin, bonjour.
Bonjour Marc-Antoine.
Hey, écoute, on demeure enjoué personnellement malgré la saison du Canadien qui, elle, est tout à fait, est beaucoup moins réjouissante. J'ai remarqué qu'il y avait un homme en particulier qui n'était pas réjoui du tout, Claude Julien, à la suite du revers face aux Rangers de New York. On pourrait dire qu'il est sorti de ses gonds.
Et ouais, on pourrait dire ça. Au moins, on pourrait dire ça. Encore une fois, tu sais, je pense que l'autre jour, on était en train de parler de la conférence de presse de Marc Bergevin. Puis je t'ai dit que, tu sais, le plus grand défi pour nous, comme journalistes, dans cette situation-là, c'était de l'amplifier, de rendre ça plus important que ça l'était. Ouais. C'était difficile. Je pense que c'était un défi pour tout le monde. Même sorte de défi après le match de jeudi soir. C'est Claude qui sort de ses gonds, il est frustré. Il sort en disant essentiellement qu'il n'y a aucune solution, puis il sait pas plus quoi dire, puis il peut plus répondre pour les mêmes erreurs, les tendances qui sont assez constantes. En fait, la seule chose de constant avec cette équipe-là cette saison, c'est les erreurs.
Ouais.
C'est les erreurs en défensive. Pas être capable de protéger une avance. Un paquet d'affaires qui sont plutôt négatives, ce sont les seules choses que cette équipe a fait cette saison sur une base constante. Et jeudi soir, on a vu Claude, il en avait assez. Il savait plus quoi dire parce que c'est les mêmes questions.
Ben oui, quand ça fait 5 fois en 9 matchs que tu perds une avance de 2 buts puis que tu perds le match, ça fait mal, c'est quelque chose qui... Mais tu sais, en même temps, il a frappé beaucoup sur le clou du fait de dire on joue 40 bonnes minutes, puis après ça, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'en jouer 60? C'est pas non plus un refrain qui date du début de la saison. Je veux dire, les difficultés du Canadien à conserver une avance, oui, il y en a eu une bonne partie de l'année, les difficultés à domicile, oui, mais l'effort était là... Ouais. Sur 60 minutes, de manière assez régulière, c'est un phénomène relativement fréquent de voir que cette troisième période-là devient tellement angoissante que finalement, peu importe que le Canadien joue avec l'avance ou avec un retard, il marche sur des œufs ou il patine sur des œufs en troisième période. Mais clairement, c'est un problème de confiance. Puis quand tu as un problème de confiance au niveau du groupe, on dirait que à moins d'être un fin psychologue, je sais pas si Claude Julien est un fin psychologue.
Je dirais que non.
Non, je soupçonne qu'il ne l'est pas. Ben, tu sais, c'est quoi, c'est hier, en fait, oui, hier, la première question, elle dit, ben là, à un moment donné, il va falloir arrêter de dire que les joueurs ont pas confiance puis qu'ils se retrouvent sur les manches puis qu'ils se mettent à travailler.
C'est ça.
Ben, c'est comme quelqu'un dire, quelqu'un qui est en dépression, tu dis, ben là, arrête d'être déprimé, là.
Ouais, c'est ça.
C'est
exact.
C'est pas mal.
Ce qui était souvent la réplique dans le temps avant qu'on comprenait bien la dépression. Ouais. Alors, dans le fond, peut-être qu'il comprend pas très bien le manque de confiance de son équipe puis comment, le rôle que lui, il peut jouer, à le bâtir, dans le fond. Tu sais, ouais. Il y a un rôle à jouer comme entraîneur à bâtir la confiance de son équipe. Tu veux pas sortir après un match puis dire, ben, je suis tanné d'entendre qu'ils sont pas confiants, là. Juste, va jouer.
Ouais, c'est
un peu son rôle aussi. Puis il l'a même avoué après l'entraînement vendredi qu'il y a un rôle à jouer dans leur confiance.
Exact. Mais tu fais bien dire que des fois, on a tort de trop lire dans un seul point de presse ou surtout un après-match quand les émotions sont à fleur de peau comme c'était le cas jeudi soir. Mais après l'entraînement de vendredi, Claude Julien dit, ben on fait du vidéo avec eux, puis on insiste sur des points qui sont importants à nos yeux, mais on le fait de façon positive. Puis ouais. Tu sais, c'est
il a renforcement positif.
Exactement, il a pris la peine de le souligner que c'était toujours fait dans une optique positive, parce que visiblement, après une bonne nuit de sommeil, il était sorti de ses, il était descendu de ses grands chevaux, et puis il avait peut-être ramené les choses un peu plus en perspective. Sauf que malgré tout. Quand un entraîneur dit qu'il est à court de solutions, qu'il a répété plus d'une fois qu'il allait quand même pas mettre les patins, Kirk Muller et lui, ça fait vraiment un écho de ce qu'on entendait d'une fameuse sortie de Guy Carbonneau en 2008 à Détroit,
ouais.
Sortie à laquelle j'avais assisté en direct. J'étais ça avait été assez spécial à ce moment-là.
Ben oui, non, je le rappelle très bien là.
C'est ouais. Je sais pas si les gens. En fait, pour vous remettre en contexte, à l'époque de Guy Carbonneau, donc après une série de défaites, en fait, une particulièrement une mauvaise performance à Détroit, c'est une question de c'est une question de Luc Gélina qui avait vraiment poussé Guy Carbonneau, disons, ben, dans ses derniers retranchements. Alors, il dit tant qu'ils travailleront pas, on gagnera pas. Je viens de te le dire. Puis il dit Kurt Muller puis moi, on peut quand même pas mettre les patins puis aller jouer à leur place. Puis alors là, il termine son point de presse. Puis là, il se met à marcher parce que là, comme le gars qui en a assez, c'est terminé. Mon point de presse finit comme ça. Sauf que les entraîneurs du Canadien doivent toujours ils ont des questions en français puis après ça il y a des questions en anglais. Fait que, alors là après le point de presse en français, en principe après un match, ben c'était le tour des anglophones de prendre le relais. Alors Guy Carbonneau s'en va en coup de vent, tu sais, avec théâtralité. Puis à un moment donné, après 6 ou 7 pas, il s'arrête puis se tourne vers Pat Hickey de la Gazette puis il dit oh Pat, I'm sorry. Do you want me to repeat this in English? Il y avait complètement. C'est comme si en un instant, en se rappelant de sa responsabilité, puis en se rappelant de Pat Hickey, il y avait subitement, tu sais, dépompé.
Ouais.
Fait que tandis que c'est pas ce que Claude Julien a fait, parce que Claude Julien, ça s'est terminé également sur une question de
journaliste de
journaliste de Gazette. Yeah. Et puis il leur virait de bord assez solide à propos de la évidemment de la
surutilisation de Carey Price.
Voilà,
une question tout à fait légitime, je trouvais, mais Claude Julien était pas d'accord.
Ben écoute, c'est très légitime. C'est
ben oui.
Ça n'a aucun sens que bon, Carey Price vendredi a eu congé, c'était tiens donc grosse surprise. Mais jusqu'à ce moment-là, pour la quantité d'utilisation qui a été faite de ce joueur-là, de ce gardien-là depuis le début de l'année, je trouve que d'une part, il y a beaucoup de départs, j'ai déjà utilisé ce terme-là auparavant, mais ça ressemble à de l'acharnement thérapeutique. Mais il y a également toutes ces journées d'entraînement où Price aurait pu rester, aurait pu ne pas sauter sur la glace, puis il l'a fait quand même. Là,
Par exemple, mercredi.
Par exemple, ouais, exact.
C'est comme, il a fait tout l'entraînement mercredi, là, puis Claude était en train de dire que, il reçoit des congés entre les matchs. Oui, un congé dans le sens où il joue pas entre les matchs.
Ben ouais. Est-ce qu'on tire tout le monde de congé?
Tout le monde de congé dans ce sens-là. Parce qu'il s'est entraîné, mercredi. Alors, il a joué mardi, il s'est entraîné mercredi, il a joué jeudi. Et quand tu regardes, écoute, les deux matchs contre Vancouver et contre New York, Price a joué tout un match,
ouais.
Dans les deux cas. Mais dans les deux cas, en troisième période, il a donné un but que, je pense, en temps normal, il arrête. Tu sais, le but de Vertanen qui a frappé son épaule puis est tombé derrière lui, peut-être, c'est pas impossible que ça peut être attribuable à la fatigue. Et le but de Fox, je pense, c'était
ouais.
Le but de Fox en troisième période encore. Quand les joueurs sont, c'est normal, plus fatigués, qu'ils sont en première période, ils donnent un but qui aurait dû arrêter puis l'avouer après le match. Alors demander que tu penses-tu que ton gardien est un peu fatigué, ça fait 17 matchs sur 18 qu'il vient de jouer. Puis jeudi soir il a atteint le seuil de match que je pense que le Canadien visait qu'il joue toute la saison.
Oui.
Tu sais, il s'est rendu à 55 matchs.
On n'est pas au mois de mars encore.
Et alors, c'est une question tout à fait légitime. Claude, on s'entend que ça fait des semaines qu'il est demandé sur l'utilisation de Price, puis il donne la même réponse à chaque fois. On essaie de se rentrer dans la course aux séries. Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas éliminé, on va jouer Price, blablabla. Bla, bla. Mais dans le contexte hier, après qu'il a dit ce qu'il a dit, où j'ai honnêtement pas de réponse, blablabla, tu sais, tout ce qu'il a dit, il a atteint une limite de quelque sorte, puis c'est Paul Stu Cowan qui était la cible cette fois, mais il y avait rien de, tu sais, il dit, demandons une question qui a du sens, donc son question avait beaucoup de sens, puis c'était tout à fait légitime comme question, mais ça juste, ça, pour moi, c'était, tu sais, plus que tout ce qu'il a dit auparavant, qui était déjà une démonstration de, du niveau de frustration d'un coach, parce que un coach de la Ligue nationale de hockey qui sort puis qui avoue qu'il n'y a pas de solution,
ouais,
c'est rare. Ça, on voit pas ça souvent. Puis il l'a fait dans les deux langues, c'était comme le message qu'il voulait envoyer.
Ouais.
C'était quelque chose qu'il avait prévu. Alors déjà, sa frustration était évidente, mais c'était, ça pourrait pas être plus évident qu'avec sa réaction envers Stu pour une question qui était assez anodine, puis je pense tout à fait normal dans les circonstances.
Mais tu sais, tu mentionnes le fait que Carey Price a gardé les buts dans 17 des 18 derniers matchs du Canadien. C'est le joueur le plus utilisé, le gardien le plus utilisé dans la Ligue depuis le début de la saison. Mais rappelons-nous que l'année dernière, il y a eu un blitz incroyable en fin de saison, en une poussée en dans le dernier tiers de la saison pour que le Canadien essaie de rentrer en séries éliminatoires. Et encore là, Julien a utilisé Price à outrance, ce qui fait en sorte que depuis le début de la saison dernière, Price est le premier dans la Ligue nationale pour les départs. Depuis, si on monte au début de la saison, donc 2018-2019, il a 119 départs. Et en tout et partout, il y a écoute, il y a 9 gardiens qui ont 100 départs ou plus, mais lui, il est le premier à 119. Connor Hellebuyck des Jets de Winnipeg est deuxième à 113. Alors, c'est, et dans les deux cas, ben on parle d'un gardien de but dont l'équipe n'aura pas fait les séries éliminatoires. Alors, c'est normal qu'à un moment donné tu te dis, ben là, combien, s'il continue de faire partie de la solution de vos plans d'avenir, à quel moment vous pensez faire en sorte qu'il va, vous allez pouvoir protéger votre asset, là.
T'sais. Ouais, c'est ça. Puis, c'est exact. C'est le pire échec de la saison morte de Marc Bergevin. Il y a quand même, je pense que moi et toi aussi, on parle de tous les bons coups de Marc Bergevin les deux dernières années, disons 2 ans et demi. Il n'a pas trop de choses à lui reprocher au cours des deux dernières années, à mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup de partisans qui ne seraient pas d'accord, mais ça, c'est mon avis. Mais la pire chose qui est arrivée les deux années, c'était juste à quel point il reconnaît pas ce que tu viens de dire. C'est leur joueur de concession. Marc Bergevin adore le dire. Tu sais, Pittsburgh, ils ont Sidney Crosby, nous on a Carey Price. Ouais. Il adore dire ça. Alors, tu sais, de prendre ton joueur de concession puis le mettre dans une situation où il peut pas performer à son meilleur. Tu sais, il peut pas le faire parce que c'est pas juste le fait qu'il joue tous les matchs, mais c'est le fait que il se sent dans l'obligation de le faire. C'est comme il y a pas d'autre choix. Tout repose sur lui.
Ouais.
Alors même mentalement, c'est pas une bonne situation. T'sais, c'est comme si t'étais le seul gars qui est capable de marquer un but sur ton équipe, puis si tu marques pas, tu perds. Il y a aucun joueur de hockey qui peut performer dans des circonstances comme ça. Puis Carey Price, il est pas différent que les autres là. C'est, il fait une erreur puis son équipe perd. That's it.
Mais c'est pas un problème non plus. Le fait de trouver un substitut de qualité, c'est pas un problème qui date de cette année ni de l'année dernière. Depuis que Peter Budaj a quitté le Canadien,
mm-hmm,
c'est un problème. Il y a eu une rotation. Écoute, il y a eu Al Montoya. Il y a eu
Mike Condon.
Ouais. Il y a eu Dustin Tokarski. Il y a eu Antti Niemi. Là, il y a Charlie Lindgren. Il y a eu Keith Kincaid. Il y a eu la saison où Price était blessé, puis on a déniché Ben Scrivens. C'est du roulement constant, là. Puis il y a aucune de ces solutions-là qui est une solution viable, qui a été une solution le moindrement durable.
Oui. Puis je me demande si, d'ici la fin de la saison, si Charlie Lindgren ou qui sait, peut-être Caden Primo à un moment donné ou quelqu'un, remporte pas un match, je me demande c'est quand la dernière fois dans la Ligue nationale que le gardien qui a terminé deuxième sur son équipe pour le nombre de victoires avait juste une victoire. Parce que en ce moment, il y a Charlie Lindgren, Caden Primo et Keith Kincaid qui sont en égalité,
oui,
à deuxième place sur le Canadien pour les victoires avec un chaque.
Ben oui. C'est autant de victoires que David Ayers.
Ouais, c'est ça, exact. Exact. David Ayers serait en égalité pour deuxième place sur le 15e. Alors, je dois faire mes recherches, là, mais ça vient de me sauter à la tête parce que je pense que c'est très possible que il y aura pas un autre gardien qui va avoir une victoire d'ici la fin de la saison. Je suis sûr qu'à un moment donné, Charlie Lindgren va jouer. Ouais. C'est impossible, tu sais, comme Claude Julien parlait de aussi longtemps qu'il y a de l'espoir. C'était une réponse sur une question sur Jake Evans, mais tout de suite après, il était demandé sur Price, puis il a dit même réponse.
Ouais.
Là, ils ont 16 matchs à jouer, il y a 9 points de retard. Je comprends que, en fait, c'est même pas que je le comprends, je m'attends à ce que des athlètes professionnels, des entraîneurs professionnels, croient que quelque chose qui semble être impossible soit possible. Parce qu'ils ont passé toute leur vie à faire des choses que le monde pensait pas qu'ils étaient capables de faire. Et ça, Brendan Gallagher l'a très bien expliqué à un moment donné. Il dit, écoute, chaque joueur ici, à un moment donné, tu sais, il y a aucun joueur ici qui est exposé être ici. Les chances d'atteindre la Ligue nationale sont tellement minces que tout le monde ici a
surmonté quelque chose.
A surmonté quelque chose qui était très improbable.
Oui.
Puis c'est correct comme ça, tu sais. Mais là, c'est rendu, c'est plus qu'improbable maintenant. Là, c'est 9 points en 16 matchs, 9 points de retard en 16 matchs. Impossible.
Mais oui.
C'est carrément impossible, puis je peux pas croire que Claude Julien va continuer à prendre des décisions en fonction de quelque chose qui est tellement impossible.
Mais à partir du moment où le directeur général vend à la date limite des transactions, échange des joueurs qui avaient une contribution. Tu sais, dans l'immédiat, Nate Thompson est un joueur plus efficace qui rend de meilleurs services aux Canadiens que le fait Jake Evans.
Mm-hmm.
Alors, si tu te départis de Nate Thompson, c'est que tu dis, ben là, nous, on est vendeurs parce qu'on est prêt à assumer le fait qu'on va s'affaiblir parce qu'on veut aller chercher l'atout qu'on peut obtenir en retour. Même chose pour celui qui va prendre la place de Kovalchuk, etc., etc. Vous comprenez le principe. Mais à partir du moment où le directeur général reconnaît ça, comment ça se fait que ça n'entre pas en... comment ça se fait qu'il n'y a pas un alliage avec les décisions de l'entraîneur? Je comprends que l'entraîneur veut continuer de gagner des matchs, puis il doit continuer de le faire. Sauf que de le gérer en disant « on a encore des chances », alors que le directeur général vient de poser des gestes qui suggèrent que c'est pas envisageable.
Sauf que le directeur général est sorti le jour même, puis a dit lui-même qu'il trouvait pas que les décisions qu'il venait de prendre... étaient en train de nuire à leur chance d'accéder aux séries. Ils trouvaient que...
Non, mais c'est de la bouillie pour les chats.
Ça. Oui, mais je comprends, mais c'est ça qu'il a dit. Il est sorti en disant ça. Alors, tu sais, c'est clair qu'il lançait un message à son équipe. Il dit, écoute, ça peut avoir l'air que j'ai lancé la serviette, là, mais c'est pas comme ça que je pense. En ce moment, je vais vous remettre dans la course, blablabla. Tu sais, écoute, je suis d'accord. Ça voulait rien dire. Mais, tu sais, juste en t'entendant dire ça, tu sais, c'est comme, oui, d'une certaine façon, tu regardes ses gestes, puis tu penses ça, puis là, tu l'entends parler, puis tu entends quelque chose d'autre, tu sais, ouais. c'est pas tout à fait clair. Alors, je suis d'accord avec toi, écoute, je suis d'accord, ça fait des semaines qu'il aurait dû commencer à prendre des décisions en fonction de leur réalité. Mais là, je trouve que c'est comme juste, c'est plus... Même aujourd'hui, à l'entraînement, tu sais, il a dit... aujourd'hui, à l'entraînement, il a dit, le but, c'est de continuer à s'améliorer.
Ouais.
Il a pas parlé d'une course aux séries. C'était comme la première fois, depuis longtemps, que il avait quand même une chance de le faire. Parce qu'il a dit, tu sais, il parlait de Jake Evans encore, là. Tu sais, c'est comme, puis, c'est notre but, c'est... Et aussi de leur tendance de s'écrouler en troisième période, puis le but d'ici la fin de la saison, c'est de s'améliorer.
Mm-hmm.
Alors, peut-être que finalement, Claude Julien va commencer à prendre des décisions en fonction de la saison prochaine, et je serais intéressé à savoir, en fait, on n'en a pas parlé, mais je serais intéressé à savoir, pour toi, qu'est-ce que tu aimerais voir Claude Julien faire d'ici la fin de la saison, pour comme mettre la table pour la saison prochaine?
Ben... c'est une bonne question parce que la situation avec le Rocket de Laval fait en sorte que les options sont assez limitées au niveau des tests qu'il peut faire. Dans une situation où le Canadien aurait par exemple décidé de garder Jesperi Kotkaniemi à Montréal, ben moi j'aurais dit, bon ben voyons voir Jesperi Kotkaniemi avec des joueurs d'avant de premier plan,
uh-huh.
Qu'est-ce que ça peut donner? Ou d'avoir de dire, bon, mais on a Ryan Poehling qui est à Montréal. Est-ce qui en ce moment, entre Ryan Poehling et Jake Evans, peut assumer le mieux un rôle de centre à l'échelle de la Ligue nationale.
Ouais.
Sauf que là, en ce moment, ces expériences-là avec tes jeunes, tu peux pas les faire parce qu'ils sont à peu près tous avec le Rocket de Laval.
Puis ils peuvent même pas les rappeler même s'ils le voulaient. Juste,
oui, ça, c'est
juste pour expliquer. Ouais, on va expliquer ça. Okay. Ça.
Ouais.
Alors, Carl Osner est à Montréal à cause, il est sur ce qu'on appelle un emergency recall, un rappel d'urgence. Alors, dans le fond, il était rappelé quand Xavier Ouellet a subi sa commotion à Washington. Alors, là, Xavier Ouellet nous a parlé aujourd'hui. Il a l'air bien. Il a passé tous les tests. Il s'est entraîné avec l'équipe. Claude Julien disait qu'il n'y avait pas encore le feu vert pour un match, mais effectivement, Xavier Ouellet est prêt à revenir au jeu. Alors, ce qui va arriver quand il est enlevé de la liste des blessés, les Canadiens vont être forcés de renvoyer Carl Osner à la base. Sauf que je pense...
Parce qu'un joueur, quand un joueur est rappelé d'urgence, il vient remplacer un joueur qui est blessé.
Ouais.
Quand le joueur blessé revient en action, nécessairement, il faut que le gars retourne dans la Ligue américaine.
C'est ça. Parce que chaque équipe, après la date limite des échanges, a une limite de 4 appels. 4 appels normales de la Ligue américaine. En ce moment, Charles Hudon est aussi un rappel d'urgence pour remplacer Jonathan Drouin. Alors, surtout que Jonathan Drouin est prêt à jouer, Charles Hudon doit retourner à Laval, puis je pense que ça ferait du bien à Laval d'avoir leur meilleur marqueur. Mais pour l'instant, ils ont juste 6 défenseurs. Tu sais, quand Xavier Ouellet est en santé, ils n'ont pas un 7e défenseur. Alors, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que un rappel a été utilisé pour Jake Evans, qu'il fallait qu'il remplace Nate Thompson. Alors, ça, c'est un. Et je pense qu'ils vont garder Carl Osner. Alors, dans le fond, ils vont retourner à Laval, puis ils vont le rappeler comme un rappel normal, parce ouais. que tu as besoin d'un défenseur d'extra. Puis, effectivement, pour que Xavier Ouellet soit capable de jouer en série avec le Rocket, il faut qu'il soit renvoyé et retourné encore. Alors, ça va être un autre rappel. Parce que sinon, à cause du fait qu'il était blessé, ils n'ont pas été capables de le faire lundi. Lundi, c'était la date limite pour qu'un joueur... Lundi à 3h, il fallait qu'un joueur soit sur l'alignement de l'équipe de la Ligue américaine pour être éligible pour jouer en série.
Mm-hmm.
Dans le cas de Ouellet, vu qu'il était blessé, une exception est faite, mais il faut quand même faire cette transaction-là. Alors là, ça, c'est les 3 rappels. Ça, c'est 3 rappels qu'ils vont utiliser. Ce qui veut dire qu'il reste juste un rappel pendant le reste de la saison. Il peut quand même faire des rappels d'urgence au cas de blessure, mais ils peuvent pas nécessairement juste rappeler. Tu sais, ça serait bien beau de dire un rappel Kotkaniemi, il joue comme 2 matchs puis on va le renvoyer. Tu sais.
Ouais,
tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ce que les Sénateurs ont pas mal fait toute l'année avec leurs jeunes là, où ils ont donné des essais de 3-4 matchs puis ils l'ont retourné à Belleville. Là, les Sénateurs seront plus capables de faire ça à cause du règlement de 4 rappels. Mais là, le Canadien est dans une position où il leur reste juste un rappel, puis je pense qu'ils vont garder pour... Puis il y a aussi le fait qu'ils ne veulent pas affaiblir le Rocket, parce qu'ils sont dans une course pour les séries. Puis je pense que l'organisation aimerait ça, que évidemment, que le Rocket participe en série, puis que Palin, Kotkaniemi, Fleury, Brooke, tu sais, toutes les jeunes qui sont là, Jesse Ylönen qui arrive la semaine prochaine, qui était une grande nouvelle aujourd'hui, qui est sortie vendredi. Il aimerait ça que ces jeunes-là, tu sais, connaissent cette expérience-là là-bas. Alors voilà, c'est ça.
Fait que c'est important. De toute façon, ça va être important que le Canadien garde Osner et Ouellet à Montréal, parce que la saison de Victor Mété est terminée, puis on va se le dire, c'est quand même, on sait pas combien de temps Shea Weber va être capable de tenir le coup. Est-ce qu'il va jouer sans arrêt d'ici la fin de la saison, ou dans le fond, tu sais, ou à un moment donné, il va dire bon ben là, le niveau de douleur est trop élevé, puis j'ai besoin de prendre une pause ou quoi que ce soit. Alors le Canadien, la moindre des choses, ça va être d'avoir 7 défenseurs à sa disposition.
Ouais.
Alors
Parce qu'il faut quand même qu'il joue des matchs là.
Oui, c'est
ça. Faut avoir des joueurs pour jouer les matchs.
Ben voilà.
C'est ça que je pense que trop de personnes oublient des fois.
Donc, cette situation-là fait en sorte que, pour revenir à ta question initiale, j'ai l'impression que les options à la disposition de Claude Julien sont assez limitées. Je pense que Max Domi lui redonner une chance peut-être d'être sur le top 6, ça pourrait pas être une mauvaise
idée. Moi, je le remettrais à l'aile. Ah, oui. Moi, je le mettrais à l'aile le reste de la saison. Peu importe c'est ce qu'il fait, là, c'est, ouais. Moi, je le mettrais à l'aile gauche, puis dis, débrouille-toi.
Okay.
Parce que si tu veux rester à Montréal, c'est là que tu vas jouer. Alors, il faut qu'il s'habitue. C'est simple. C'est très simple dans son cas. S'il veut être à Montréal, puis je pense que oui, je pense qu'il aime ça ici, il va falloir qu'il réapprend comment jouer à l'aile puis être efficace à cette position-là, parce que dans l'avenir, si tout va bien, puis je pense que le Canadien doit un peu planifier dans ce sens-là, que tout va aller bien avec leur meilleur espoir, il y a juste pas de place pour Max Domi au centre. Alors ça, c'est une chose que je ferais. Si j'étais Claude, là, je mettrais à l'aile. Je sais pas qui je mettrais au centre, mais au pire, tu sais, mets Jordan Wheel au centre, je m'en fous, là. Moi, je veux voir Max Domi à l'aile. Là.
Jordan Wheel au centre du troisième trio. Moi, je continue de croire que, tu sais, Wheel, c'est un joueur marginal dans la Ligue nationale, sauf que c'est le genre de joueur qui, à cause de, il y a plus de compétences offensives que défensives. Il est beaucoup mieux adapté sur un troisième trio que sur un quatrième trio. Ouais. D'une certaine manière, c'est un petit peu le même genre de, c'est comme s'il y avait les mêmes contraintes que Charles Hudon, mais il avait été capable de passer par-dessus. Parce que Hudon, à long terme, ne survit pas vraiment sur un quatrième trio de la Ligue nationale. Il faudrait qu'il trouve un moyen d'être sur un troisième. Il n'a pas été capable de le faire, tandis que Will a plus d'atouts dans son jeu qui lui permettent de le faire, entre autres le fait qu'il est, c'est un centre droitier à la base, un gars qui est capable de prendre des mises en jeu. Puis, tu sais.
Ben, c'est ça la différence entre lui et Charles Hudon, c'est le fait qu'il soit droitier.
Ouais.
Les opportunités que Will a eues sont principalement à cause du fait qu'il lance la droite puis il prend des mises en jeu. Mais à part ça, entre lui et Charles Hudon, écoute, ils ont des habiletés différentes, là, mais en termes de leur utilité au niveau de la Ligue nationale, là, sont pas mal égales. La seule raison que Charles Hudon, c'est un des meilleurs buteurs de la Ligue américaine, puis Jordan Wheel il joue dans la Ligue nationale, c'est le fait qu'il soit droitier, puis il est capable de gagner des mises en jeu, puis il est pas mal efficace en jeu de puissance. Mais ouais. Charles Hudon, il l'est aussi. Là. S'il avait passé la saison ici, je suis sûr que Charles Hudon aurait marqué quelques vues en avantage numérique. Là, parce que
aurait-il été employé en avantage numérique, par exemple? Il aurait eu l'occasion. Il l'a pas été souvent dans ses appels précédents.
Là. Non, je comprends, mais comme Will, c'est Will, il est pas dans la ligne, où il joue pas, où il joue en jeu de puissance.
Ouais.
C'est comme s'il y a rien entre les deux. Là.
Ouais.
Will joue pas sans jouer sur le jeu de puissance. Puis je pense que éventuellement Charles Hudon aurait été dans la même situation, parce qu'ils n'ont pas un tireur de ce côté-là. Tu sais, souvent, ils n'ont pas quelqu'un à cercle droite qui est capable de décocher une lancée sur réception. Et c'est quelque chose que Charles Hudon peut très bien faire. En fait, c'est sa force. Alors, je suis convaincu que s'il avait passé toute la saison à Montréal, que oui, il serait employé sur le jeu de puissance, mais c'est ça. C'est tout ça pour dire que, effectivement, moi, je mettrais Max Domi à l'aile.
Ouais.
Une autre chose, je serais intéressé à savoir ce que tu penses de ça, mais on se rend pas compte, mais ça fait 18 matchs depuis que Philippe Danault a marqué un but.
C'est pas 14?
Je pense que c'est 18.
Okay.
Ça se peut que ça soit 14, mais je pensais que c'était 18. Okay. En tout cas, ça fait longtemps.
Ouais.
Hier soir, après le match, quand Claude Julien parlait de comment il dit à ses joueurs de soulever les rondelles, et tout ça, c'est clair qu'il faisait référence à la chance que Philippe Danault avait en troisième période. Il aurait pu égaliser le match, mais il a tiré trop bas, puis Georgiev a fait l'arrêt. C'était une référence claire à cette situation-là. Puis aujourd'hui, à l'entraînement, on a vu des drills où ça recréé exactement la situation que Philippe avait hier soir. C'est mettre l'emphase sur le fait qu'effectivement, il faut, dans ces situations-là, autour du filet, il faut soulever la rondelle. Qu'est-ce que tu penserais si, juste pour voir ce que ça donne, tu mettais Nick Suzuki à la place de Danault?
Ouais. Ben, écoute.
Je pense pas que Danault serait très content, mais moi.
Non, ça c'est clair. J'aime les chances de Suzuki de bien se débrouiller au sein d'un trio comme celui-là. Je pense qu'il serait capable de faire du bon travail. Cela étant dit, là, on prend une statistique qui est celle de Danault qui a de la difficulté à marquer des buts depuis un bon moment.
Ouais.
Puis en vase clos, ça peut être préoccupant, sauf que si on regarde dans le portrait d'ensemble, ce trio-là continue cette année de bien fonctionner. Dano peut continuer de faire des mentions d'aide. Il peut continuer d'étouffer les premiers trios adverses parce que c'est une de leurs deux premières missions, sinon la première mission de ce trio-là, c'est de museler le premier trio de l'autre équipe. Et bon, hier, ils ont eu face aux Rangers de New York, ce trio-là a quand même eu deux buts pour à sa fiche, dont aucun but contre, à 5 contre 5. En troisième période, ils ont été littéralement dominés par le trio de Nika Zibanejad. C'est vrai, mais en bout de ligne, ils se sont pas fait brûler par un but. Alors, je me dis, est-ce que il y a tellement de problèmes au sein de cette équipe-là, est-ce qu'on va s'attarder sur le fait que Dano a de la misère à trouver le fond du filet pendant une quinzaine de matchs pour défaire quelque chose qui n'est pas brisé?
Ben, dans le fond, si la priorité c'était encore de remporter des matchs, je dirais non. Il n'y a aucune raison de démanteler ce trio-là. Juste pour être précis, là, je viens de compter, mais c'est bel et bien 18 matchs sans but.
Ouais.
Il y a quand même 11 passes dans ces 18 matchs-là.
Mais alors, tu vois, c'est ça.
C'est la raison de faire ça, c'est pas pour punir Philippe Dano. C'est pour voir ce que Nick Suzuki peut faire dans ce rôle-là.
Ouais.
C'est surtout ça. Et c'est surtout comme ça que si jamais il le ferait, il faut que tu présentes ça à Philippe comme ça. Écoute, on ferait pas les séries. Nous, comme organisation, on aimerait faire une évaluation un peu plus profonde sur Nick et voir comment il fait contre les meilleurs trios adverses. On veut juste le voir. Toi, on va compter sur toi pour, tu sais, quand même un trio, Lekkonen, Dano, Armia, ce serait intéressant, là. Je trouve pas que c'est pas comme un mauvais trio, là.
Dans deux ans, on espère que ce serait le troisième trio du Canada.
Ouais, c'est ça. Effectivement, mais c'est quand même un trio qui est intéressant, puis ça donne la chance de voir comment Suzuki s'est
développé. En fait, selon, suivant ta logique, il y aurait Domi à sa gauche.
Ouais, effectivement. Alors, tu peux remettre Domi, Dano, Armia, puis Lekkonen, Wheel et
Byron.
Et Byron. Tu sais, c'est juste pour voir. Moi, je serais curieux de le voir. Tu sais, je pense que Suzuki a quand même. C'est pas comme si Suzuki jouait pas, en plus. C'est juste une question de rôle.
Mm-hmm.
C'est vraiment le rôle que moi, je serais curieux de voir comment il fait contre. Tu sais, ils vont jouer à Denver. Comment est-ce qu'il va faire contre Nathan MacKinnon? T'sais, ils vont jouer plein de matchs contre les bonnes équipes. Là. C'est une opportunité de vraiment établir et de faire une évaluation d'un joueur dans un rôle qui n'a pas vraiment joué cette saison encore.
Mm-hmm. OK. Amenons ça à sa prochaine étape. Disons que le scénario se produit, le Canadien joue... emploie Suzuki donc au sein du premier trio contre des gros trios adverses et il fait très bien. Est-ce que dans le fond ça ne sert pas la cause de l'équipe d'être moins dépendante de Philippe Dano en sens que tu as écrit récemment à propos de la renégociation de son contrat et celle évidemment de celle de Tatar, de Gallagher, etc. Mm-hmm. Mais bon, c'est revenu sur le tapis au moment de la signature de Jean-Gabriel Pageau. Et tu disais que Dano était un des deux joueurs probablement dont ce serait le plus difficile de se passer de leur service. Est-ce que si on fait la démonstration que Suzuki est capable de faire le travail comme il faut, ben ça rend Dano moins indispensable?
D'une certaine façon, oui. Mais tu sais, le problème avec Philippe Dano, c'est même, tu sais, quand j'ai écrit ce texte-là, puis quand nous on a fait le texte au début du mois de janvier sur les 18 prochains mois, puis on a comme décidé que Dano serait peut-être un contrat qui serait juste pour Dano, serait 5 ans à 6 millions par année. C'est ça notre conclusion au début janvier, en se basant sur le contrat de Michael Backlund dans Calgary. Michael Backlund qui est en feu, en fait.
Oui,
à Calgary,
c'est
incroyable,
hein? Ouais.
Et Charlie Coyle à Boston. Les deux gagnent moins de 6 millions par année, mais le rôle de Dano, comparé au rôle que ces deux gars-là jouent, tu sais, Charlie Coyle, c'est quand même le troisième centre à Boston, puis Michael Backlund, c'est le deuxième centre à Calgary. On a décidé que Dano méritait un peu plus d'argent qu'eux autres. Mais la réalité, c'est que si tout va bien, encore une fois, puis Canadien, il faut qu'il planifie d'une certaine façon en fonction de ça, c'est que il espérait que Kakami et Nick Suzuki seraient les deux premiers centres de l'équipe.
Mm-hmm.
Dans un monde idéal. Alors là, rendu là, tu es en train de payer ton troisième centre 6 millions par année. On s'entend que Philippe Dano serait probablement le meilleur troisième centre de la Ligue. C'est comme, ce serait vraiment, ça deviendrait vraiment une force pour le Canadien. Alors, peut-être que ça se fait. Puis, tu sais, le plafond salarial va continuer à monter. À un moment donné, 6 millions va avoir une valeur moindre que maintenant. Mais, comme tu dis, éventuellement, c'est ça qui va arriver. Tu sais, c'est comme, Philippe Dano va pas toujours avoir ce rôle-là de contrer les meilleurs trios de l'équipe adverse. Il va peut-être même être dans une position de produire plus. Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Philippe Dano jouer contre des troisième trios sur une base régulière. Tu sais, c'est comme, alors, tu sais, c'est vrai que, tu sais, sa production offensive doit être prise en contexte. Le contexte étant qu'il joue des minutes très difficiles. Mais encore une fois, faire ça serait pas comme punir Philippe Dano. Peut-être, à cause de ton question, c'est vrai que peut-être big picture, il serait puni dans le sens où le Canadien réaliserait que c'est pas nécessairement lui qui fait rouler ce trio-là contre les meilleurs trios adverses, et que Nick Suzuki serait capable de le faire, parce que je suis convaincu que peut-être pas là, mais éventuellement, il va être capable de jouer ce rôle-là. C'est un gars qui est quand même assez intelligent et assez... il y a comme... Il prend ça au sérieux, le jeu défensif. C'est quelque chose qu'il a toujours pris au sérieux. Son idole était Patrice Bergeron quand il était jeune. Là. C'est quand même un gars qui apprécie cet aspect-là du jeu. Mais je serais curieux de le voir. En fait, c'est surtout je serais curieux de voir comment il réagirait à de la difficulté.
Mm-hmm.
Parce que jusque maintenant, et c'est ça qu'on voit avec Kakanimi en ce moment, tu sais, il avait dans sa vie comme joueur de hockey, il n'a jamais vraiment connu de difficulté avant la fin de la saison dernière. Et il n'a pas super bien réagi à ça, parce que dans le fond, il sait pas comment réagir à ça. Il n'est pas habitué à connaître des échecs au hockey. Il a toujours été le meilleur. Il a toujours joué dans des divisions qui étaient plus hauts. Tu sais, il a joué U18 à 15 ans.
Ouais.
Tu sais, il a eu U20 à 16 ans. Tu sais, c'est comme, alors, je pense que c'est important de voir, puis, comment un joueur, réagit dans ces situations-là. Parce que là, il espérait que Kakanimi est en train d'apprendre comment gérer ça en ce moment. Et c'est une bonne leçon à apprendre, tu sais. Il y a juste 19 ans. C'est bon qu'il apprend que ça va pas tout le temps bien, là. Des fois, ça va mal, puis il faut que toi, tu fais en sorte que ça va bien. Il faut que tu... Puis, dans le cas de Suzuki, ce serait intéressant de voir, pour moi au moins, puis j'imagine pour l'organisation aussi, comment il réagit contre le meilleur trio de l'équipe adverse.
Ouais. Parce que je me fais l'avocat du diable là-dedans en disant que le trio Tatar d'Anno Gallagher, qui était une des constantes du Canadien depuis 2 ans, puis probablement une des sources de son succès relatif.
Ouais.
Est-ce que si t'as une bonne formule, t'as pas avantage à la garder? Parce que à ce compte-là, tu dis, si on veut garder Thomas Tatar au sein de l'équipe, sa principale utilité, c'est d'être un excellent complément à Dano et Gallagher, puis de faire en sorte qu'il y a une recette éprouvée là. Puis si on le déplace ailleurs dans la formation, est-ce qu'il va avoir la même utilité qu'il a sur ce trio là? C'est pas clair. Ça a été tenté de brèves occasions, mais je pense que quand t'as quelque chose qui fonctionne, c'est, jusqu'à preuve du contraire, c'est bon de le garder. Cela étant dit, je comprends bien ce que tu dis. C'est de faire un test, c'est de faire des essais, de voir le temps de quelques matchs, comment réagit la recrue Suzuki dans telle ou telle situation. Puis ça n'a pas autant à voir avec le rendement de Dano qu'avec ce qu'on veut, avec ce que Suzuki est capable d'accomplir à ce temps-ci de sa carrière.
Oui, mais il y a aussi un autre aspect de ça que je pense que on n'en discute pas parce que il nous semble clair que aux yeux du Canadien, tu sais, Philippe Dano fait partie de la solution, mais disons qu'ils sont pas capables de s'entendre sur un contrat. Disons que les demandes de Philippe Dano sont un peu trop riches pour le Canadien. Ou suppose que Philippe Dano n'est plus là en 2021-22, ce qui est possible.
Ouais.
Dans cette circonstance-là aussi, t'aimerais ça savoir si Nick Suzuki rend Philippe Dano comme un joueur de surplus, presque, ouais. Pour l'avenir, comme quand je pense à Max Domi, s'il reste au centre, il me semble que c'est un joueur de surplus, c'est quelqu'un qui serait un candidat pour un échange. Ouais. C'est comme et je dis pas que, en fait, je dis même pas qu'il devrait échanger Domi, mais je dis pas qu'il devrait échanger Dano non plus, mais il faut être prêt pour toute éventualité. Mm-hmm. Et si jamais Dano, ça l'intéresse pas de signer un contrat à un rabais, parce qu'on s'entend que l'offre en juillet va être une offre à long terme, mais aide-nous un peu, puis peut-être laisser un peu d'argent sur la table. Ça se peut que ça soit comme ça, puis s'il veut rien savoir de ça, peut-être le Canadien doit voir ce serait quoi comment la vie sans Philippe Dano aussi.
Oui, on sait jamais. Dans toutes les, peu importe la situation, c'est bon d'avoir un plan B, un plan de contingence si jamais ça fonctionne pas. T'as raison. Écoute, avant qu'on poursuive notre conversation, je voulais simplement souligner à nos auditeurs qui nous écoutaient avec loyauté et on l'espère beaucoup de plaisir que vous, si vous n'êtes pas abonné à athletic.com, vous pouvez le faire en vous abonnant. Il y a un rabais pour simplement pour les abonnés d'Athletic. En fait, pour les auditeurs du Super Athletic, dis-je. Alors, vous avez qu'à vous rendre à athletic.com/Super Athletic et ça va vous donner 40% de rabais sur votre première année d'abonnement. Donc, athletic.com/Super Athletic pour votre 40% de rabais pour la première année d'abonnement. Donc. Ça, c'est intéressant, c'est des choses qui peuvent être faites d'ici la fin de la saison. Tester davantage Domi à l'aile, peut-être essayer de voir ce que Suzuki peut faire au sein du premier trio. Mais je vais revenir à notre sujet initial qui est Claude Julien. Je pense que là, la question est la question que tout le monde commence à se la poser. Quelles sont les chances que Claude Julien soit congédié à la fin de la saison?
Honnêtement, avant hier, je pensais que c'était zéro. Mais pas peut-être zéro. Je pense que c'était à 10% avant hier. Puis je veux pas, encore une fois, je veux pas trop en mettre sur une conférence de presse après une défaite. Mais pour la première fois de la saison, après ce match-là, après la conférence de presse de Claude Julien, je commençais à penser que ça se peut que ça soit fini pour lui après cette saison. Je sais pas si c'est le cas, nécessairement. Je suis convaincu encore que toute la gang, dans le fond, Bergevin, Julien, Timmins, tout le monde a comme une autre saison pour que ça fonctionne, pour que quelque chose fonctionne. Et pour le Canadien se rend en série, puis que ça devient clair qu'ils sont véritablement sur la bonne voie. Tu sais, tu peux pas constamment dire je suis convaincu qu'on est sur la bonne voie sans le démontrer à un moment donné. Ce qui n'est pas arrivé, en fait. Alors. Moi, la façon que j'ai vu ça, j'ai toujours vu ça, c'est que, tu sais, on parle souvent de tous les chiffres qui démontrent que le Canadien, c'est une meilleure équipe que leur résultat suggérait. Ces chiffres-là, pas toutes et pas complètement, mais une grande partie de ces chiffres-là sont attribuables souvent à l'entraîneur. La façon qu'il joue, le système qu'il joue. Dans le cas du Canadien, je dirais que Claude Julien et son personnel d'entraîneur, pas juste lui, les priorités qu'il donne à ses joueurs, puis juste leur façon de jouer, fait en sorte qu'ils créent des chances de marquer. Ils sont dans la zone offensive plus souvent que non.
Les statistiques de possession de rondelles
sont super forts. Puis à moi, ça dit que mets des meilleurs joueurs dans ce système-là, puis tu devrais avoir une bonne équipe.
Ouais.
Est-ce que c'est la faute de Claude que les joueurs sont pas meilleurs? Peut-être, à un certain point, parce qu'il y a aussi un rôle à jouer pour que les joueurs s'améliorent comme entraîneur. Et peut-être que ça fait un peu défaut dans son cas. Mais en termes de système de jeu, en termes de façon de jouer, je vois pas de problème avec Claude Julien, sauf que juste la récurrence des mêmes choses qui l'écoutent des matchs et le fait que ça durait toute la saison sans correction. Tu sais, l'année passée, c'était le jeu de puissance, toute la saison sans correction, le jeu de puissance a tué le Canadien. Puis cette saison, c'était d'être incapable de protéger une avance. Et complètement des breakdowns défensifs monumentaux qui menaient à des deux contre un, des surnombres pendant tout le match.
Mais ça a été corrigé quand même.
Ça a été corrigé, mais ça revient. Je trouve que ça commençait à revenir un peu les dernières semaines. Là. Il y a beaucoup de problèmes. La seule chose que Canadiens ont vraiment corrigé sur une base plus ou moins permanent, c'est des avantages numériques cette saison, je trouve. Mais à part ça, les défauts de l'équipe qui existaient en novembre sont toujours là en fin de février.
Ouais. Ben à un moment donné, l'incapacité à corriger un problème, ça devient de la responsabilité de l'entraîneur.
Non, absolument. C'est pour ça que je mentionne. Alors, d'un côté, t'as le système de jeu, mais de l'autre côté, c'est le fait que une fois qu'il y a des défauts qui deviennent très évident, ça prend longtemps pour que le Canadien corrige ses défauts, que ça corrige des erreurs flagrantes qui se passent à chaque match.
C'est quand même paradoxal parce que tu regardes, si on regarde l'ancien entraîneur du Canadien, Michel Therrien, moi je prendrais Claude Julien avant Michel Therrien n'importe quel jour de la semaine.
Mm-hmm.
Mais si tu regardes la formation que Therrien a eue la majorité du temps où il a été à Montréal versus celle que Claude Julien a sous la main, nonobstant les blessés, mais on regarde juste les noms des joueurs, les deux formations, je trouve que dans l'ensemble, Claude Julien a eu de meilleurs joueurs sous la main que Therrien l'a eu. La grosse différence, c'est que Therrien a probablement hérité des meilleures années de Carey Price, où le rendement de Price dopait peut-être les performances de l'équipe. Sauf qu'en bout de ligne, Therrien, avec une équipe qui, à mon avis, était globalement un peu moins talentueuse, a été capable d'aller chercher un peu plus de rendement que ce que Claude Julien était fait.
Mais la différence, Therrien avait des joueurs de haut niveau. Tu sais, il y avait Subban à son meilleur. Il y avait Pacioretty, un des meilleurs marqueurs de la ligue. Il y avait un Markov. Les meilleurs joueurs pour Therrien étaient meilleurs que les meilleurs joueurs de Julien.
Ouais.
Mais Julien a une équipe qui a plus de profondeur, qui est bâtie un peu. Dans le fond, il a créé un système qui était bâti pour cette personne de joueur-là. Alors, c'est difficile pour moi à dire c'est qui a eu droit au meilleur joueur, là, parce que d'une certaine façon, tu sais, Therrien avait, tu sais, on parle tout le temps
c'est
des game breakers.
C'est vrai qu'il y avait Plekanec également.
Il y avait des joueurs qui étaient capables de faire une différence dans un match, mais tu sais, c'est encore. C'est la théorie du strong link, weak link. Là.
Ouais. On y revient toujours,
mais maillon fort et maillon faible. Le maillon faible de Claude Julien est plus fort que le maillon faible de Michel Therrien, mais le maillon fort de Michel Therrien était beaucoup plus fort que le maillon fort que Claude Julien. Là. Alors, je sais pas. Mais une chose que je dirais pour Michel Therrien, c'est que souvent, Michel Therrien aurait pas toléré que ça arrive à chaque soir. Cette affaire de troisième période, puis pas protéger des avances là, lui, je suis convaincu, il aurait corrigé ça. Il y avait quelque chose qui, il aurait fait quelque chose pour que ça arrête. Il était beaucoup moins tolérant de ces choses là parce que lui, il aurait fait quelque chose de quand même drastique là. C'est le problème avec Michel Therrien, il est pas assez patient. Claude Julien est trop patient.
Mm-hmm.
Il change rien. C'est aujourd'hui à l'entraînement, on arrive, les trios sont les mêmes, les duos de défenseurs sont les mêmes, tout est le même. Il aime ça la constance, il aime ça bâtir sur la constance. Michel Therrien, c'était l'opposé. Mais je suis convaincu que quand ils ont commencé à faire ça, tu sais, que c'est quand même en novembre aussi, ça existait là, cette affaire de troisième période, puis avoir des avances et tout ça. Puis encore une fois en janvier, je suis convaincu que Michel Therrien aurait probablement réglé ça, rendu là, ce que Claude Julien n'a pas fait.
Mais en tout cas, Étant donné que le Canadien, selon toute vraisemblance, va rater les séries éliminatoires pour la troisième année de suite.
On n'a plus besoin de dire selon toute vraisemblance. Là, c'est rendu comme, tu sais, comme après c'est le 14, fait. Après le 15 janvier, là,
ouais.
T'as plus besoin de dire bonne année. Alors là, on est arrivé au point où on n'a plus besoin de dire selon toute vraisemblance, ils vont pas faire les séries.
D'accord.
That's it.
C'est bon, ça. Mais, je serais pas surpris que Jeff Molson et Marc Bergevin cherchent un bouc émissaire cette saison-là. Je ne sais pas si ça va être Claude Julien, je ne sais pas si ça va être Kurt Muller, mais à un moment donné, il y a probablement quelqu'un qui va payer pour les insuccès de cette équipe-là cette saison. Je pense que les chances sont assez élevées qu'on remplace Claude Julien à la fin de la saison.
Ouais, ben c'est sûr qu'ils sont plus élevés que je pensais il y a un mois.
Ouais.
Ça c'est certain.
Pour moi, il était pas dans l'eau chaude. Les séquences de 8 défaites, je sais qu'il y a plein de médias qui disent Claude Julien sur la corde raide. Ça m'apparaissait pas comme ça à ce moment-là, mais en fin de saison, là où c'est pas que les joueurs ont complètement cessé d'écouter son message puis qu'ils ne veulent plus jouer pour ce coach-là. Et, t'sais, l'effort est là, mais dans la qualité dont le message se rend destination puis la façon dont les joueurs vont pouvoir exécuter les changements ou les corrections qui leur sont apportées, il y a visiblement quelque chose qui se rend pas.
Ouais.
Tu sais, qui est à son accomplissement.
Ben, c'est drôle parce que ça me fait rappeler... Raymond, t'es où, là? À Détroit. Ouais, effectivement, c'était à Détroit, encore.
C'est toujours à Détroit.
Alors, tu sais, le matin du match à Détroit, Claude Julien, quelque chose qu'il fait jamais, là, il a avoué que ce serait inacceptable de perdre 4 matchs contre une équipe qui est en bas de nous au classement. Il a pas dit une pire équipe de la Ligue, là. Et c'est le premier, c'est rare si on entend des joueurs ou des entraîneurs faire référence au classement, puis une équipe qui devrait battre.
Ouais.
Ce matin-là, il l'a fait. Puis il l'a fait assez clairement. Il dit, c'est une question de fierté. Moi, j'ai mis le défi aux joueurs. C'est quelque chose qu'il faut qu'on, ça, c'est un match qu'on doit gagner. Si on est fier de, si on a une certaine fierté, on va gagner ce match-là. Après le match, évidemment, ils ont perdu.
Ah oui, une avance de 2 buts. Hein,
une avance de 2 buts, ouais. Bon, sauf celui-là, c'était sur la route. Alors, c'était un peu de variété dans la vie, là, c'est bon, là, mais... alors, après le match, j'ai demandé une question qui était quand même assez boiteuse, là, je l'avoue. C'était pas... Je l'ai pas formulé de la façon que je voulais, là. Ah,
je te comprends, j'en ai une de même cette semaine.
Puis, mais essentiellement, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, après avoir dit ce que t'as dit ce matin, de voir la façon que tes joueurs ont réagi... Comment ça te fait sentir comme coach? C'est ça que je voulais dire. Ouais. Sauf que je l'ai demandé de la façon que, est-ce qu'il y a un problème de communication?
Ouais.
Entre toi et tes joueurs. Et il m'a jeté un regard, là. Il m'a regardé vraiment dans le blanc des yeux, puis il était juste comme en choc. Il était juste en train de me regarder. C'est, communication problem? Puis il s'est mis à tout le monde. Puis tout le monde était comme, pourquoi il s'est fâché tellement contre la question? Je suis comme, c'est pas la meilleure question au monde. Mais tu sais, c'est un peu ça. C'est tu voyais à quel point c'était tendu. Tu voyais à quel point que tu sais, veux pas, ce message passait pas. Tu sais, les Canadiens ont pas abordé ce match-là avec l'urgence que Claude Julien suggérait que ça avait ce match-là. Alors, ou c'est un problème de communication, parce que ça ne l'est pas. C'est pas comme si Claude Julien l'était pas dit de gagner le match. Tu sais, c'est comme, mais il y a tu sais, la capacité de soutirer le meilleur de tes joueurs, là, ce que je pense que Claude Julien a fait l'année passée, d'une façon hallucinante, là, c'est quand même, il faut le noter, il semble plus capable de faire ça.
Non.
D'une certaine façon. Au moins pas sur une base constante.
Ben, écoute, ce qui peut-être le sauver cette année, c'est que Monsieur et Bergevin disent, ben, étant donné qu'il a été capable de soutirer le meilleur de ses hommes l'année dernière, cette saison, il a une mauvaise saison, mais on peut lui donner
une
autre année. Non, mais c'est quoi?
Les blessures!
Je pense pas que les blessures, on aurait entendu davantage parler. Je pense que cette année, il y a eu tellement de pression populaire pour dire « sont mieux de pas nous arriver avec l'excuse des blessures », ça n'a pas été évoqué du tout par Marc Bergevin lors de ses derniers points de presse.
C'est vrai.
Alors, je m'attends pas à ce
mais
que
Claude,
ça
Claude, apparaisse. Claude, il l'évoque, là. Claude, il l'évoque. Quand il est demandé, il est pas gêné. Là.
Non, mais il est dedans au quotidien, au niveau de quelle manière je remplace un tel par un tel autre. Pour lui, c'est un casse-tête de tous les jours, tu sais. Mais est-ce que ça fait, quand tu prends un pas de recul, est-ce que ça fait vraiment une grande différence dans la saison du Canadien? Moi, je pense pas, tu sais. Les blessures ont nui à leur capacité de pouvoir faire une espèce de push en deuxième moitié de saison puis dire, bon, ben là, on s'est creusé un trou, mais là, on se retrousse les manches puis on en sort. Les blessures ont été un problème pour ça. L'absence de Gallagher, l'absence de Drouin, l'absence de Weber, etc.
Tout allait bien. Quand Drouin s'est blessé, tout allait bien.
Non, un instant. Mais là, je parle après le 1er janvier.
Mais moi,
après le jour de l'an, c'était, ils étaient déjà sérieusement dans les câbles. Moment-là, c'était ce qui avait principalement été leur problème de blessure, ça avait été Drouin et Byron. Il faut qu'une équipe soit capable de se remettre de la perte de deux joueurs.
Oui, absolument. Absolument, mais c'est ça, c'est un peu ça. Tu sais, je le répète un peu, mais c'est aussi longtemps que les remplacements soient pas du genre de Charles Hudon et Matthew Pekka et Dale Weiss et du monde qui devrait pas jouer dans la Ligue nationale, et que ça devient des joueurs qui sont juste des joueurs de la Ligue nationale en développement, là, le Canadien aura quelque chose. Puis là, c'est ça qu'on va commencer à voir. Tu sais, Jesse Ylönen, il arrive à Laval la semaine prochaine. C'est le début. Kotkaniemi est là. Peeling est là. Fleury est là. Brooke est là. Il y a des joueurs qu'on peut voir un jour dans la Ligue nationale à Laval comme
même
option.
Même Vedemo dans un rôle de
soutien. Vedemo, ouais, absolument. Evans qui était là, qui là, il remplace Nate Thompson. L'année prochaine, tu pourrais avoir un Cam Hillis, Alan McShane, on sait pas ce qu'ils vont signer, là, mais Cole Fonstad, on sait pas. Mais tu dois avoir des joueurs comme ça, à Laval. Pour, effectivement, combler la perte. Une blessure, Jonathan Drouin, étant donné, comment il jouait quand il s'est blessé, c'est une grosse perte. Pour cette équipe-là, c'est sûr, il était leur meilleur joueur offensif. Au moment qu'il s'est blessé, là, il était comme à chaque match, il était dynamique, il créait des choses, il provoquait des choses. C'était une perte importante. Mais, ceci étant dit, à un moment donné, si le développement des jeunes et si les Canadiens ont bien repêché, des situations comme ça vont devenir quasiment des opportunités.
Oui.
Des opportunités au lieu d'être vues comme il faut combler un trou avec tel ou tel joueur. Ça va être une opportunité de voir jouer un gars de 21 ou 22 ans, puis le mettre dans un rôle offensif dans la Ligue nationale, puis dire, OK, let's voir ce que tu peux faire. Puis ça va être comme un clin d'œil ou ça va te donner juste un petit clin d'œil de l'avenir.
Ouais.
Au lieu d'un joueur qui est comme pas mal fini là.
Qui est un joueur de remplacement, qui est là comme je veux pas manquer de respect à personne, mais un peu comme un bouche-trou dans une certaine mesure. Faut que t'aies des gars qui ne font qu'attendre leur tour, mais qui sont comme des chiens qui grattent dans la porte pour entrer.
C'est ça. Alors, moi je suis convaincu que dans les deux prochaines années, l'équipe École du Canadien va être comme ça.
Mm-hmm.
Parce que forcément, s'ils utilisent chacun de leurs 14 choix au repêchage en printemps, là, en juin, ça va faire 35 choix au repêchage en 3 ans. En 3 repêchages, dans le fond, dans 2 ans calendrier, mais dans 3 repêchages. Alors, la beauté de ça, c'est que c'est clair que tu vas pas avoir 35 joueurs de la Ligue nationale là-dedans, mais tu en as besoin de comme 4. Disons, 4 sur 35 qui deviennent des joueurs, non seulement de la Ligue nationale, mais des joueurs pas d'impact comme des super vedettes, là, mais des joueurs de la Ligue nationale qui ont un impact sur un match, qui aident à bâtir une bonne équipe. Et c'est tout à fait raisonnable qu'ils vont trouver 4 joueurs parmi ces 35 joueurs-là, je pense.
Ben, ils sont mieux, parce que sinon, ils sont sérieusement dans le trouble, puis les détracteurs de Trevor Timmons vont continuer de veiller tard. Alors, ben, merci tout le monde d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin et puis d'avoir, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller nous lire sur athletic.com.
Et juste un rappel du lien pour l'abonnement, si jamais si vous êtes encore là, puis vous n'êtes pas abonné à Athletic, c'est athletic.com/support-athletic. Ça te donne 40% de rabais sur ta première année d'abonnement. Alors athletic.com/support-athletic.
Voilà. Et puis ben bonne fin de semaine tout le monde. Et puis on se reparle lundi pour les abonnés. Bye bye. Thank you.